Session de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont le 17 mai 1996, deuxième conférence.
On m'a demandé de revenir un instant sur ce que je vous disais tout à l'heure, parce que c'est évidemment important à bien saisir, et c'est un peu subtil. Et on doit exposer les choses rapidement alors. C'est qu'apporte à l'amour d'amitié le fait que celui que j'aime me dit qu'il m'aime. Mais l'intersubjectivité à l'intérieur de l'objectivité. L'intersubjectivité, c'est justement C'est le jeu du chat et de la souris. Vous avez déjà vu la manière dont un chat inhibe une souris. Et si la souris pouvait disparaître, elle disparaîtrait. Alors, grâce à Dieu, le chat n'est pas Dieu, donc il n'a qu'un pouvoir très limité. Et le serpent fait des mêmes choses quand il fixe un oiseau. Un examinateur fait le chat ou le serpent. Il inhibe. Puis il attend. 10 minutes de silence. 0. Vous n'avez rien dit. C'est la faute de qui? De l'examiné ou de l'examinateur? Alors si vous pouvez le dire à l'examinateur, merci monsieur d'avoir été si gentil avec moi. Cette blême en fonction de ce conditionnement particulier. Et je crois que constamment, c'est cela qui arrête la croissance d'un amour qui, au point de départ, était vrai. Et qui commence à aller à la dérive. Là, on commence à regarder beaucoup plus le conditionnement de l'ami que le regard sur lui. Ça, je suis très frappé de ça. Quand on regarde les divorces aujourd'hui, très facilement, tu vois, très souvent, c'est ça qui arrive. C'est qu'on est en présence d'un amour qui ne se développe plus. Alors, les divorces sont officiels, tandis que les amours, l'amour d'amitié, quand il n'y a pas le mariage, ça peut rester caché, ça peut rester entre amis. Alors, quand il y a ce défaut de croissance et que l'amour progressivement diminue, ça ne se sait pas. Peut-être l'ami d'un ami pour comprendre cela et vérifier de fait que c'est le conditionnement qui n'a pas été dépassé par l'amour. Il y a là quelque chose, je crois, de très important. Et dans le monde d'aujourd'hui, où très facilement on est attentif au conditionnement plus qu'à la personne elle-même, ce climat d'aujourd'hui qui fait que on est plus attentif à l'effet de l'amour qu'à l'amour lui-même, qu'à la personne elle-même. On est plus attentif à l'amour qu'on a pour quelqu'un que à la personne elle-même. Autrement dit, à l'aspect subjectif de l'amour qu'à l'aspect objectif. On est beaucoup plus sensible à ça. On voit comment aujourd'hui, très facilement, on est en présence d'amour, d'amitié qui s'arrête. Et quand on cherche la raison, c'est presque toujours ça. Amour d'amitié, cette expérience de l'amour d'amitié, je peux l'analyser. Et en l'analysant, je découvre ce qu'est l'acte moral. Et je passe de l'expérience qui me met en présence de la finalité à la réflexion philosophique sur ce qu'est cet amour d'amitié et comment il contient en lui un acte moral. Et non seulement un acte moral, mais qu'il contient en lui toutes les diversités de l'acte moral. Et donc, ma philosophie morale se développe à l'intérieur de l'analyse de cette expérience. En effet, tout amour d'amitié implique un premier amour qu'on a accepté et qui s'est développé en amour d'amitié. Mais ce premier amour, j'aurais pu le refuser. Et quelquefois, c'est ce qui arrive. Parce qu'on a peur d'aimer. L'homme a très peur d'aimer. La femme, moins. Elle cherche plus l'amour que l'homme. Elle cherche plus à être aimée et à aimer que l'homme. L'homme a très peur d'aimer et de déclarer qu'il aime. Parce qu'il sait qu'en aimant, il devient relatif à quelqu'un. Or, quand l'homme a un très grand sens de son autonomie, et qu'il considère que l'autonomie, c'est la chose suprême, dans un climat psychologique, de l'autonomie devient la chose essentielle. Et être autonome et ne pas aimer, c'est se condamner soi-même à être dans la médiocrité. La recherche de l'autonomie n'est pas une finalité. L'ami peut me finaliser, mais moi, je ne me finalise pas. Je crois me finaliser en cherchant l'autonomie au-dessus de tout. Parce que l'homme aime de jouer. Dans le jeu, je développe mon autonomie. C'est très curieux. Sauf quand le jeu perd sa qualité de jeu et qu'on vient dans la compétition. Alors le jeu perd sa qualité de jeu parce qu'on cherche à être victorieux pour être victorieux. Vous voyez, la course en vélo, on essaie d'écraser les autres. Le marathon, on essaie d'écraser les autres. Et on fait tout pour être victorieux. Donc, il n'y a plus de finalité. Il y a uniquement être premier. Être premier n'est pas une finalité. Écraser les autres n'est pas une finalité. Être victorieux d'une course, ce n'est pas une finalité. Le jeu peut devenir un adversaire terrible de la finalité. Vous voyez, c'est, on voit très bien dans le monde d'aujourd'hui où la finalité disparaît à cause de l'efficacité. Le jeu reprend toute sa force. Dans toutes les décadences de civilisation, le jeu, sous des formes diverses, devient quelque chose de capital.
Est toujours porté par l'amour. Le projet, c'est
c'est lorsque je veux réaliser quelque chose. Là aussi, ça peut être un terrible ennemi de l'amour. Celui qui veut faire une œuvre. Il a le projet de faire une œuvre et de réaliser une œuvre. Ça devient l'ennemi numéro un de l'amour. Ce serait là encore très important de bien voir comment l'amour à l'égard d'une personne peut, si je réfléchis sur la qualité de cet amour, se transformer en une intention.
Vivre
d'amour, d'amitié véritable. On est fort. Mais ça veut dire que ça nous. Deux intentions de vie. Ça nous, deux amours. Et c'est là où je découvre l'acte libre le plus grand de toute ma vie humaine. Choisir un ami et être choisi par lui comme ami. Dépendant du conditionnement. en réalité, on n'a pas découvert la personne de l'autre. Le choix amical est quelque chose de capital. Je crois que c'est l'acte libre le plus important que nous pouvons poser. Parce qu'il porte sur une personne et donc il a quelque chose de substantiel. De ce choix amical, on va voir comment, ensemble, on peut s'aimer plus, coopérer ensemble, dans un travail, dans une vie commune, et ainsi de suite. Alors, ce qui est important à bien voir au point de vue moral, et au point de vue philosophie morale, c'est de voir que l'amour d'amitié me fait comprendre la fidélité et la responsabilité. Ce sont comme les deux propriétés de l'amour d'amitié. C'est les propriétés, c'est-à-dire les conséquences de l'amour. L'amour à l'égard. À s'aimer dans le temps, mais on l'aime au-delà du temps, quand on aime vraiment. Et c'est ça la fidélité. C'est être victorieux du temps, le conditionnement du temps, qui joue un rôle énorme dans notre vie humaine. La fidélité, parce qu'on a atteint un absolu dans la personne humaine. Responsable de cet amour et de l'amour de l'autre. Un amour d'amitié me fait comprendre ma responsabilité dans la fidélité. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut coopérer à tout son épanouissement. Une personne humaine aimant la vérité, capable d'aimer une personne humaine qui se développe dans le sens de ses propres qualités. Et on sent qu'on est responsable d'elle, puisqu'on l'aime pour elle-même et qu'elle nous aime pour nous-mêmes. On veut ensemble faire quelque chose de grand. Tout amour d'amitié implique cette coopération de réaliser une œuvre ensemble. Et c'est en réalisant cette œuvre ensemble que la responsabilité devient de plus en plus. Et ceci est très important parce qu'au fond, l'acte moral est un acte volontaire, où je suis responsable de l'orientation de ma vie, et où je suis responsable de l'orientation de la vie de celui que j'aime. Et donc ma responsabilité manifeste la moralité d'un acte. Vous voyez, ou pour une autre, on a fait mal à quelqu'un. Mais comme on n'en a pas eu conscience, on dit je m'excuse et je ne me sens pas du tout responsable. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu conscience de faire mal à quelqu'un. Et on fait du mal à des quantités personne que nous n'aimons pas et on s'en aperçoit pas. On s'aperçoit qu'on fait mal à quelqu'un quand cette personne entre dans notre vie. parce que nous l'aimons et qu'elle nous aime. On est responsable de ce qu'on se des outils dont on se sert, non pas en fonction de notre lien avec ces outils, mais en fonction de la personne qui possède ces outils et qui nous ont prêtés. C'est toujours un rapport de personne à personne qui implique la responsabilité et qui fait comprendre ce que c'est que l'acte moral. Un acte dont je ne suis pas responsable n'est pas moral. C'est très bien ça. Une action mauvaise et un crime, on essaie par tous les moyens, si on est son avocat, de montrer qu'il n'était pas responsable. Pour telle ou telle raison. La responsabilité est le principe d'un acte humain. Or, la responsabilité, c'est l'heure.
Nous, parasite. Vous avez changé de poche.
Oh, attendez, voilà. Comme ça, ça va être mieux. C'est la responsabilité qui indique et qui manifeste le caractère moral d'un acte. Or, cette responsabilité dans l'amour d'amitié atteint son sommet. Et ceci vient confirmer que c'est bien par l'expérience de l'amour d'amitié que je puis découvrir profondément ce qu'est un acte moral. L'acte moral implique un amour à l'égard des personnes humaines. Et cet acte est parfaitement lui-même quand il est libre. Et non seulement quand il est libre, et quand il répond à l'amour de quelqu'un pour moi, dans l'amour d'amitié. Et c'est pour cela que je crois qu'on peut dire que l'éthique fondamentale pour l'homme apparaît dans toute sa force, dans l'amour d'amitié. Et pour que cet amour d'amitié puisse s'épanouir, je suis attentif à l'acquisition des vertus. Aujourd'hui, vous savez bien, on n'a pas tellement d'amour pour la vertu. Si vous commencez l'éducation a montré qu'il faut acquérir les vertus. Ça ne sera pas très efficace. Tandis que si vous montrez que l'amour d'amitié ne peut s'épanouir avec l'ami dans une coopération, que si les amis cherchent à dominer leur passion, à dominer leur regard sur eux-mêmes, à dominer l'accaparement qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne humaine, vis-à-vis de son ami. Vous allez tout de suite comprendre. Si je n'acquiers pas ce qu'on appelle les vertus cardinales, la prudence, la justice, la force, la tempérance. Ça n'a pas bougé. Depuis Platon, ça n'a pas bougé. On sait très bien que ce qui est fondamental dans notre vie, c'est la prudence. qu'il est évident que l'amour d'amitié va au-delà de la prudence. Mais, pour que l'amour d'amitié puisse grandir, il faut qu'on acquiert cette sagesse pratique qu'est la prudence. Si j'ai découvert dans mon ami des actes d'une imprudence folle, je suis entraîné par lui dans ses imprudences, et je lui dirai, écoute, ça suffit, je ne peux pas suivre. Tu es tout le temps dans une imprudence. Et prenez le fait d'avoir un conducteur de voiture qui, à chaque instant, commet des imprudences. Au bout d'un certain temps, vous direz, écoutez, c'est suffisant. Chaque fois, j'ai des stress terribles. Je me vois dans le fossé où je vois la voiture qui fonce sur moi. Ça empêche la vie commune. C'est évident. Les stress empêchent. Et ça, la prudence. Il faut acquérir la prudence pour aimer. L'amour d'amitié est au-delà de la prudence. Et pour que l'amour d'amitié grandisse, pour que l'amour d'amitié puisse tout prendre en moi, il faut la prudence. Il faut la justice. L'amour d'amitié respecte l'autre. Et le respect à l'égard de l'autre implique la justice. La justice, c'est respecter les droits de l'autre. Si je ne respecte absolument pas les droits de l'autre, très vite, l'amour d'amitié sera en échec. Si je dis, tu es mon ami, donc tout ce que tu as m'appartient. Alors vous avez un ami très riche, vous êtes très pauvre, c'est merveilleux. Toutes les richesses de l'ami m'appartiennent. L'ami acceptera ça peut-être au point de départ. Parce que l'amour aveugle. Mais dès que cet amour devient un peu plus profond, je dirais à l'ami, mais respecte-moi quand même. Je ne suis pas un instrument aveugle pour toi. Je ne suis pas un esclave. Respecte mes droits. La vertu de force. Si vous voyez que votre ami est poltron, dès qu'il y a un petit danger, il s'en va à toute vitesse. Et que de fait, il est incapable de lutter volontairement contre des situations difficiles. Ça devient un échec pour l'amour d'amitié. Et la vertu de tempérance est nécessaire pour que l'amitié puisse s'épanouir. Puisque si je n'ai aucune tempérance et que tout ce qui est dans l'assiette de mon ami est dans mon assiette, ça ne va plus du tout. L'amitié ne favorise pas le pique-assiette, hein, non, pas du tout. C'est quelque chose de très particulier. La vertu de tempérance permet quand même de se conduire dignement et de ne pas perdre complètement conscience devant l'assiette de l'ami qui est plus fournie que la mienne. Je louche, ça va plus du tout. C'est très important de comprendre que l'amour d'amitié réclame l'acquisition d'une maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi, on l'acquiert par la prudence, par la justice, par la force, par la tempérance. C'est donc l'amour d'amitié qui va me permettre de comprendre pourquoi il faut l'acquisition des vertus cardinales, c'est-à-dire des vertus fondamentales. c'est le père, Marie-Dominique Gouthière, qui continuera. Puisque je suis obligé d'aller à Genève. Je suis très content à ce que ce soit lui. Et puis, je reprendrai avec vous dimanche pour l'éthique chrétienne. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.